Alors moi, voilà, je vais parler en tant qu'ancienne conseillère animatrice du planning familial, du mouvement français pour le planning familial. Mouvement, ça ne s'appelait pas planning familial. C'est-à-dire que notre philosophie, c'était de dire, on est en mouvement puisque personne ne parle jamais de la sexualité. Hein, là, c'était tabou, hein, on avait peur de dire cul, sein et tout. Maintenant, on s'en fout, tout le monde dit ça et même... Bon, on va même jusque très loin dans l'intimité. On avait un vocabulaire châtié, on disait bonjour à tout le monde, enfin dès qu'on entrait dans une pièce, on se levait à l'école, il rentrait comme ça, hop, on était debout comme ça. Bon. Alors c'était déjà une façon d'enseigner aux enfants d'être un peu bien dans les rails. Alors moi j'étais un peu arabo-normande, donc les rails de qui, les rails de quoi? Il n'y avait pas trop de rails. Alors pour moi, donc ma carrière, je me suis mariée. Ah, j'avais quoi, 19 ans? J'ai eu mon premier bébé à 20 ans, car je n'avais pas fauté avant. Oui, non, mais vous rigolez à cette époque-là, hein, fallait être vertueuse. Non, on ne mettait pas les draps pour voir si. Hein, non, c'est pas comme ça, mais presque. Et bon, donc, j'étais horrifiée de voir qu'on avait des enfants qu'on n'avait pas envie d'avoir. Ça m'a toujours insupporté. J'ai dit à mes enfants, moi, vous êtes trois, je vous adore, mais je dois dire que j'étais pas trop contente. Et même le dernier, j'avais un stérilé et j'ai quand même eu un bébé. À l'époque, c'était pas encore au point, non. C'est-à-dire que c'était très très important de militer dans ce mouvement-là. Pour moi, c'était vraiment l'engagement. Ils me disputaient tous, oh, j'aurais mieux fait de faire prendre ma carte au parti de ceci, au parti de cela. Mais bon, dans la famille, les gens, ils étaient très militants, de gauche, bien sûr, chez nous, on était comme ça. Mais moi, je disais, non, je ne veux pas faire partie de chapelle, je veux militer dans un mouvement social. Donc, je suis allée au mouvement français pour le planning familial. Ça s'appelait comme ça, MFPF. Alors, pourquoi mouvement? Parce qu'on disait, ben oui, la sexualité, c'est une matière nouvelle sur laquelle on doit travailler, sur laquelle on doit s'engager. C'était dangereux, car ce qu'on voulait, c'était que les femmes et les hommes, surtout les femmes, pour celles qui étaient des femmes, mais que les femmes et les hommes aient à leur disposition des moyens de contraception autres que le préservatif. Il n'y avait que ça. Et il y avait des gens qui ne voulaient pas s'en servir parce que... Toujours les mêmes histoires. Alors ça éclate, c'est pas agréable au dernier moment. Enfin bon, toutes sortes de prétextes pour pas l'utiliser, si bien que les bonnes femmes en clopent. Et comme vous le savez, la vie d'une femme pour faire des enfants, c'est 25 ans, 25 mômes, ça faisait pas peur aux mecs. Ils s'en foutaient, ils en auraient eu un, le deuxième l'aurait pas voulu, mais la femme, ça faisait rien. Donc moi, j'avais une position très 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 dur là-dessus. Je disais, ben non, faut pas vivre comme ça, parce que ça veut dire que on n'a pas d'égalité, c'est pas une vraie égalité. Parce que les hommes, ils font ce qu'ils veulent, et les bonnes femmes, elles sont toujours à la merci. Alors on a beau être amoureux, aimé, etc., il y a des jours, bon, on se dit, c'est mieux de pouvoir être libre de choisir quelque chose. Mais j'avais des femmes qui me disaient, mais moi, ça, moi j'en ai marre, moi des fois, j'ai pas envie, et puis quand j'ai envie, après j'ai un enfant. Voilà, ah ben oui, la période de fœtomodation, c'est le moment où les femmes sont le plus attirées pour avoir des rapports sexuels, ce qui est naturel. Tout ça, c'est des choses qui appartiennent à notre animalité, mais en même temps, on n'est pas des animaux, comme disaient mes stagiaires qui parfois parlaient. Les catholiques intégristes, c'est comme les musulmans intégristes, ça vit avec le bon Dieu et c'est lui qui décide. Donc, si c'est lui qui décide, tu prends ce que le bon Dieu t'envoie. Comme avait dit ma belle-mère, elle m'a dit, ah, moi j'ai pris les enfants que le bon Dieu m'a envoyés. Je lui dis, oui, vous avez eu de la chance, c'était tous les 7 ans. Elle a eu trois enfants, 7 ans, 7 ans, 7 ans, tous les 7 ans. J'ai dit, ben moi, ça aurait été tous les ans. Ah, oh, elle m'a dit oui, j'avais pas pensé à ça. Et du coup, elle m'a pris une carte. Elle m'a pris une carte du mouvement. Oui, elle n'avait pas pensé que des femmes pouvaient avoir des enfants. Elle avait eu de la chance, celle-là, quand même. Mais voilà, elle avait eu ce que le bon Dieu lui avait envoyé. Ben voilà, Inch'Allah, et puis voilà. Tant une fois, moi, il y a une petite qui est arrivée, elle m'a dit,
Ben, ses poses et plus mes règles, comme ça, un peu comme une gosse. Alors, je lui dis, ben oui, ben, c'est ennuyeux, combien de temps? Alors, elle me dit, je dis, ben, vous avez été voir le médecin? Ben non, alors bon, elle dit, mais c'est pas possible que je sois enceinte, c'était à travers un grillage. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé à travers le grillage? Non, mais j'étais sidérée, je dis, mais oui, mais le problème, c'est pas le grillage, c'est comment le sperme est monté. Alors, la gamine, elle, de le sperme et tout, elle était en pays inconnu, terre inconnue. Hein. Alors, on avait dit, il faut absolument que les enfants à l'école, alors oui, on leur apprenait les poules, les canards, les dindons, je ne sais quoi, les chiens, les chats, ciné poules. Une fois, je suis arrivée dans un centre de handicapés moyens. Alors, ces enfants-là, qu'est-ce qu'on faisait? On leur avait apporté un livre, alors il y avait la poule qui pondait l'œuf, il y avait le coq qui montait sur la poule et tout. Je dis, attendez, quand on dit une poule, c'est déjà une pute, quand on dit un coq, c'est un mec, un macho, alors regardez ce que vous leur mettez dans la tête, vous renforcez les images. Je dis, vous n'avez qu'à parler de l'homme et de la femme, du papa et de la maman et tout ça. D'ailleurs, les mômes, ils étaient plus simples que ça. Moi, j'avais un petit garçon de 3 ans. Il me dit, ouais, tu me dis que les bébés, c'est dans le ventre des mamans, mais comment on les met? Alors moi, je me lance, un petit gosse de 3 ans. Oh, tu t'avais qu'à me le dire que c'était comme une prise de courant. Oh, ben, voilà, là, c'est drôle, hein, ben, les gosses. Ben, voilà. Alors les gens, ils sont là, qui se tordent sur la tête. Comment on me parler? Ben lui, tu lui dis, c'est comme une prise de courant. Il trouve que c'est tout à fait bien. Bon, voilà, c'est pour dire que d'une chose plutôt qui appartient à la vie humaine, on en fait tout un traballage, je ne sais pas quoi. Non, mais alors, il faut quand même expliquer la transition. Nous, moi, j'ai vécu la guerre. Moi, j'ai vécu 4 guerres. Il y avait de la guerre tout le temps. Alors, nous, la guerre en France, ça avait été une horreur. Hein. Et puis, quand on s'est réveillé de la guerre et qu'on a vu ce qui s'était passé dans les camps nazis et tout, ça nous a... Je pense que ça... Il y a eu beaucoup de gens blessés dans leur cœur. Hein. Il y avait tout ce poids de plomb de l'Église catholique. Hein. La France était la fille aînée de l'Église. Hein? La loi sur la laïcité, on l'a jamais tellement exprimée. Il y avait que les instituteurs, il y avait des batailles rangées entre les gens de l'église et les gens de l'école. C'était incroyable, ils se bagarraient, hein, même les gosses entre eux. Et il y avait, au milieu de tout ça, il y avait les protestants qui étaient déjà à l'esprit ouvert. Et c'est par eux que le planning a pu s'installer en France. Madame Lagroix-Veillalier était une protestante. Et moi, quand je me suis installée à Dijon, je n'ai pas de religion, je ne crois à rien du tout. Et quand j'ai été militée au planning, c'est parce que j'avais la conviction que c'était très important, c'était un mouvement. Et des gens m'ont dit, mais qu'est-ce que tu vas foutre avec les protestants? Je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi vous dites ça? Mais au planning, il y a des protestants. Et je lui dis, alors? Ah oui, mais alors les protestants représentaient le péché par rapport aux catholiques. C'était toujours les mêmes trucs. C'est-à-dire, il y avait l'Église catholique qui était quand même toute puissante, avec toutes ces traditions. Alors, à l'Église catholique, on est là qu'on rigole des musulmans. Ah, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, il fallait avoir un chapeau sur la tête, ou bien chez les Espagnols, c'était la mentille, ils avaient des foulards. On n'allait pas à l'église découvert. Moi, je me rappelle, il fallait aller aux enterrements des voisins et tout ça. Eh bien, ma grand-mère disait, allez, il faut mettre ton petit
même
chapeau.
Dans la rue, hein. Jusqu'en 68, les femmes, elles avaient des foulards. Hein.
Ah, puis ma belle-mère, quand je suis arrivée, chez ma belle-mère, elle a dit, moi, j'avais une tête comme ça de cheveux. Et grand-mère, elle a dit, oh, elle est tout en cheveux. Ça voulait dire que j'avais pas mis mon chapeau, je sais pas quoi, sur ma tête pour cacher cette horreur que sont les cheveux. Donc nous, après, on s'est étalé, on a sorti nos cheveux, nos jambes sans bas ou sans chaussettes. À l'école, il fallait avoir des chaussettes,
avec des poils.
Avec des poils aussi. Ah oui. Tout le monde avait des poils. Oui, moi ça, on fait
non, pas tout le monde, c'était le MNF.
Non, allez. Mais tout le monde, oui, les femmes, elles provoquaient, tout le monde laissait pousser ses poils pour dire vous emmerdez,
et enfumez.
Il fallait ressembler aux femmes un peu, comment dire, très nickel, voilà, les vedettes hollywoodiennes, déjà. Bah oui, mais bah, qu'est-ce que tu
fais? Et en fait, le tabac, les femmes se sont mises à fumer
ça aussi,
parce que c'était une revendication
pour être aller au café, boire.
Ouais. Ouais. Et je me faisais agresser dans les rues de Dijon parce que je fumais.
Mais moi, je me rappelle, j'avais été dans un café à Autun, c'est pas une grande ville, toute seule, et je buvais du café. Je ne buvais pas de vin, rien du tout. Après, je l'ai fait, mais bon, au début, eh ben, tout le monde me regardait comme ça, comme si j'étais en train... Peut-être qu'il y a peut-être des bonhommes qui seraient venus... Mais je n'avais pas l'air commode, hein. Il fallait prendre un air pas commode si on ne voulait pas se faire importuner, mais pour offrir leur service, hein. Non, 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 mais c'était incroyable. Il y avait une... On était morts, on était des morts vivants. Et moi, je pense que...
Mais c'est il n'y a pas longtemps.
C'était en 50, alors là... Après, les Américains sont arrivés avec leur chewing-gum, leur boogie-woogie. Ah, ben moi, j'attends, c'est le boogie-woogie des nuits entières. C'est, ça ressemble au rock, hein. Je faisais les caloupettes par-dessus la tête de mes cavaliers et tout. Alors là, avec les jupes, alors on n'avait pas de pantalon. À l'époque, moi, je suis arrivée au lycée de Moulins. J'arrivais d'Algérie, je les faisais froid. Alors, la directrice, qui était une femme très sympathique, elle avait dit, bon, je vous autorise à porter des pantalons. Alors, c'était deux filles qui... d'Algérie, mais les filles noires, elles n'avaient pas le droit de porter des pantalons. J'ai dit, mais tout le monde doit porter des pantalons. Alors, j'ai dit aux filles, vous avez froid, mettez des pantalons. On va aller voir la directrice, on va dire que nous, on vient d'un pays chaud, qu'on n'a pas l'habitude de ces froids et qu'il faut absolument qu'on porte pantalons. Eh bien, on a fait scandale, hein. On se déguisait en homme. On était des gouilles.
Mais c'est il n'y a pas longtemps.
Je me suis fait traiter de gouilles.
Jusqu'avant 68, c'était comme
alors, ça. Alors, salope, gouine, enfin, j'ai vraiment un pédigré extraordinaire. Et puis, en plus, arabe maintenant. Voilà, mais je n'ai pas de croyance en Dieu, aucun Dieu.
Parce que, en fait, oui. Ce que disait Mina, c'est que quand elle s'est mise à militer, la vie c'était un vrai été noir. Jusqu'en 68, effectivement, la France, non seulement les journalistes disaient qu'elle était morose avant qu'elle se réveille en 68, mais c'était vraiment.
Quand on nous parle de la guerre,
Puis du reste, du catholicisme et tout. Quand on nous parle de l'islam ou des trucs comme ça, il ne faut pas rêver. Il n'y a pas bien longtemps, en France, c'était ça.
C'était pareil,
quand
Mina
disait la culpabilité et tout. Moi, je me souviens que j'avais pas 18 ans. Un mec donc, qui avait mon âge a dit « Oh, si jamais dans le sac d'une fille, donc ça supposait qu'il pouvait ouvrir le sac d'une fille puis fouiller dedans déjà, je trouve une pilule, c'est que c'est une salope, c'est une putain. » Voilà, c'était des trucs comme
c'était
ça.
Comme ça.
Mais les mecs, ils n'étaient pas plus heureux parce qu'ils ne pouvaient pas baiser non plus, sauf chez les putes. Et puis, on n'avait pas le droit de parler, ou de violer. Mais c'était quand même pas la majorité quand même. Ah. Non, on n'avait pas trop le droit de parler.
Le viol dans la conjugalité, j'en ai des kilomètres à raconter.
D'accord. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que les mecs non plus, il n'y avait pas de liberté. On se faisait chier, on n'avait rien le droit de faire, on n'avait rien le droit de dire. Les adolescents se la fermaient, les adultes aussi, tout le monde se la fermait. C'était un monde de, vraiment, on se faisait chier et en plus on avait peur. Qu'on nous tombe sur le rap pour X raisons. Et avec 68, il y a eu une espèce, et ça a été jusque. Parce que moi j'étais pas à Paris, j'étais dans un bled, j'ai vu aussi dans les villages autour. Ça a été comme une bouffée de liberté où tout le monde s'est mis à sortir, rigoler, faire ce qu'il avait envie de faire, parler, on parlait aux inconnus et tout. Et il y a eu vraiment un moment de joie. Et ça a continué pendant, je dirais, jusqu'aux années 75 à peu près. Ouais. Les premières luttes qui se sont cassées la gueule, quoi. Mmh. Mais pendant, je dirais, 7 ans à peu près, 6-7 ans, en France, les gens, mais les gens, quoi, les gens d'en bas, comme on dit, eh ben, ils se sentaient un peu revivre. Et c'est ce qui a permis, je crois, qu'il y ait eu des mouvements comme le MLAC qui puissent se passer sans que...
C'était les étudiants,
Non, 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 la jeunesse ouvrière aussi. Ben moi, j'en peux plus. Non, mais je parle que la jeunesse ouvrière était contente aussi.
Tu parles du MLAC.
Les étudiants.
Donc c'est venu de là. Alors on avait tout le temps, on avait une formation très, très, très importante, hein, parce qu'on recevait tous les publics, tous. Des gens qui étaient des gens cultivés, bien élevés, machin, ils avaient du vocabulaire, et puis d'autres qui arrivaient, ils étaient là, et il fallait arracher des mots, dire, formuler, bon. Donc tout ça, c'était une attention à l'autre. Et nous, les gens qui travaillaient, il y avait des hommes et des femmes. Et comme moi, quand je suis arrivée à Dijon, j'avais commencé d'abord par monter une permanence du planning familial à Louhans. C'est une ville de la Bresse, pas loin d'ici. Et il y avait souvent des instituteurs qui se lançaient là-dedans. La première personne qui est arrivée en lançant le planning, ça a été une dame qui s'appelait Madame Lagroix-Veille-Allier, qui était gynécologue, qui avait vécu aux États-Unis, en Angleterre,
et qui savait comment pratiquer de la contraception en dehors de du fait qu'il y avait des préservatifs pour les hommes, évidemment, quand ils acceptaient d'en mettre. Alors, donc, cette femme-là, elle a lancé ce mouvement, mais on était hors la loi. Parce qu'en France, à l'époque, il y avait la loi de 1920 qui interdisait à toute association de parler de procréation. Alors, d'avortement, on n'en parlait même pas. On ne savait même pas que ça existait, ce mot-là. Et, oui, les femmes, elles le savaient, toutes celles qui l'avaient vécu, mais on n'en parlait pas. On n'avortait pas. On voulait surtout agir sur le fait que les femmes puissent elles-mêmes gérer leur sexualité et avoir les enfants qu'elles avaient envie d'avoir, quoi. Bon, à un moment opportun, pourquoi pas, hein. Alors donc, c'est parti de là, le mouvement français pour le planning familial. Alors voilà comment on est intervenu, et j'en venais, j'ai sorti mon matos d'assistante primitive. Alors on avait, parce qu'il fallait quand même matérialiser les choses, en fait les femmes... À cette époque-là, elles ne savaient pas comment elles étaient faites. Hein. Le sexe de l'homme ou le sexe de la femme, c'était des apparences. Celui de la femme étant caché, elles n'allaient pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Elles ne savaient pas. Personne ne savait bien comment on était fait à l'intérieur. On n'avait pas eu d'informations sur la manière dont la génitalité pouvait fonctionner. Alors, j'avais un appareil que j'appelais la tête de veau. Ça représentait, devinez ce que ça représente, hein, devinez un peu, ça se démonte, hein. C'était l'intérieur, c'était la matrice là, ça représentait la matrice ici, vous aviez les ovaires, les trompes de Fallope, et puis là vous aviez... le vagin avec le col de l'utérus. Alors il fallait qu'on explique aux femmes comment elles étaient fabriquées pour pouvoir pratiquer, utiliser les objets contraceptifs que nous leur suggérions d'obtenir. On ne pouvait même pas les acheter en France, c'était interdit. Il fallait faire des circos. Et nous, on ne pouvait pas les fournir non plus. Hein. On était classés comme un mouvement hors la loi. On a été tolérés très longtemps, on n'en parlait pas, ça n'existait pas. On était un peu appelés association, mais on était une association hors la loi. Il a un peu cassé hein, mon appareil. Voilà, alors quand on le recollait, ça faisait ça. Hein. Et alors pourquoi il y a ce renflement? Parce qu'à l'époque, on proposait aux femmes de mettre des diaphragmes. C'était ce que pratiquaient les femmes anglaises et aussi, enfin, toutes les anglo-saxonnes. Elles utilisaient le diaphragme. Ça consistait à mettre... Ah ben j'en ai un, mais... Il est pourrave. Oh, il est vraiment pourrave. Alors regardez, un diaphragme, il est tout pourri, hein, il est desséché.
Ah oui.
C'était un truc grand comme ça qu'il fallait s'enfiler dans le vagin. Alors les nénettes, quand elles voyaient ça, elles faisaient « Oh, mais c'est affreux, jamais j'y arriverai, bien sûr !» On disait ben, « Non, non, c'était très souple, hein. C'était bien présenté, vous auriez bien poudrillé, hein, c'était anonyme. Hein. Vous travailliez avec ça dans votre sac, ah chérie, c'est ton poudrier, oui !» Mais bon, on ne voudrait pas devant tout le monde. Alors c'était toute une gymnastique au départ, surtout quand on avait des pudeurs, on va dire ça, on va appeler ça des pudeurs, avec son propre corps. Les nénettes, elles n'avaient jamais... Bon, si elles le faisaient, elles ne voulaient pas le dire. En tous les cas, fallait leur en parler. Et ce n'était pas toujours facile. Il fallait beaucoup de... Je ne sais pas comment dire, moi. De délicatesse, on va dire ça comme ça, pour aborder le problème. En sachant ce qu'elles venaient demander, elles ne savaient pas toujours ce qu'elles allaient trouver. Donc, faire découvrir... Cet acte qui était quand même une sorte d'intrusion dans son corps. Il fallait qu'elle puisse le manipuler, le regarder, être assurée. Et après, il fallait lui apprendre à le mettre. Et alors moi, je faisais des gestes. Hein. Et en même temps, ce machin, il fallait l'enduire d'un truc, je ne sais plus comment on appelle ça, l'alpagel. Alors l'alpagel, en fait, c'était un produit lubrifiant. Ce produit lubrifiant, il n'était pas interdit en pharmacie, on pouvait l'acheter. Mais il y avait des pharmacies à Dijon, entre autres la pharmacie Bruant. On y allait, il y avait des petites dames avec des petits chignons. On disait, madame, est-ce que vous avez de l'alpagène? Ici, on ne vend pas ce produit. Voilà, ça c'était à Dijon. Mais quand j'étais dans les autres, dans des petites villes et tout, les femmes, elles ne voulaient pas que ça se cherche. Donc elles se déménageaient pour, pour pas qu'on sache qu'elles achetaient de l'alpagel et qu'elles avaient certainement un diaphragme ou un truc comme ça. C'était difficile à vivre. Parce que moi, quand il y avait des hommes qui venaient, ouais, les bonnes femmes, alors on entendait le discours des hommes, c'était les bonnes femmes, si elles ont la liberté, ça va être toutes des putes. Voilà, on était cassés. Hein. Quand on a commencé à travailler, on est arrivé avec des gens qui avaient de l'agressivité, des gens qui étaient intimidés, des gens. Et il y avait des maris qui venaient nous demander. Ils accompagnaient pas forcément leur femme, mais ils venaient après quoi, ma femme, elle a. Bon. Mais ça, si vous voulez, c'est le côté pratique. Mais il y avait aussi tout, parce que quand on commence à parler avec les gens de leur vie sexuelle ou de leur vie tout simplement, eh bien, ils n'ont pas que simplement besoin d'objets, ils ont aussi besoin de parler. Donc très vite, on est devenus des gens qui écoutions la misère humaine, hein, la pauvreté de la vie sexuelle des gens, cette pauvreté réduite à des rapports strict un peu, comment on appelle ça. Il y avait des gens très heureux qui s'accommodaient bien de ça, mais il y avait plein de gens qui essayaient de chercher autre chose. Mais ça a commencé comme ça, dans cette espèce de la détresse des gens, des femmes en particulier, et des hommes, parce que, quand même, la sexualité humaine, c'est la rencontre d'hommes et de femmes. C'est pas qu'une femme qui veut pas ceci ou qui veut pas cela, et un homme qui veut ceci, qui veut cela, ou qui veut pas. Enfin, c'est une rencontre. Et à partir de cette rencontre, comment la vivre mieux? Et c'était un peu notre idée de réfléchir à ce que les gens puissent vivre au mieux leurs histoires d'amour. Voilà. Et pour vivre cette histoire d'amour, il fallait ne pas tout le temps avoir l'impression que 9 mois après un rapport sexuel, on pouvait faire un enfant qu'on n'avait pas désiré. Parce qu'à cette époque-là, on devait. C'était la mission des catholiques, là. On disait. On ne voulait pas parler de la notion de plaisir. On procréait. Croissait et multipliait, c'était ça, la société. Du moment qu'on se rencontrait, qu'on s'aimait, on se mariait et on faisait des enfants. Croissait et multipliait. Alors, quand nous, on est arrivés, on a commencé à parler de plaisir. Alors là, on a commencé à dire, ah, vous êtes des mal baisés. Enfin, voilà, dans quel terme nous étions perçus, des mal baisés. Voilà. Tellement il y avait de peur, parce qu'en fait, c'est la peur qui faisait ça. La résistance au changement, on connaît ça très bien, les psychologues maintenant nous ont fait des tas de démonstrations là-dessus. Mais cette résistance qui touchait à la profondeur de l'intimité humaine, c'était vraiment quelque chose qui était difficile à vaincre et à évacuer. À évacuer. Il fallait que les gens prennent confiance en eux-mêmes, dans l'autre, enfin, etc. Alors là, on a eu. C'était des femmes et des hommes qui travaillaient de concert pour faire des accueils, etc., avec des hommes et des femmes qui faisaient la demande, soit pour les uns de contraception, soit pour les autres d'avortement, carrément d'avortement. Alors, nous, on n'avait pas le droit déjà de parler de contraception, alors l'avortement. Ça nous est tombé dessus comme un truc ingérable. Alors là, on a commencé tous à se disputer. Les uns disaient, ben si, c'est un problème de sexualité humaine, il n'y a pas de raison. Puisque les gens viennent ici, c'est qu'ils ils comprennent que chez nous, on doit pouvoir parler de ça librement. Parce qu'il y avait les gens riches, ils s'en foutaient. Ils allaient en Suisse, 3000 balles, ça leur faisait rien. Hein. Ou en Angleterre, ou à Patavichnoc-les-Sonnettes, tout ça se faisait. Ou comment ça s'appelait chez les Batiaves, là. En Hollande aussi, voilà. Les gens, ils pouvaient aller là, mais il fallait des sous pour y aller. Et nous, on avait un public modeste, en fait, de gens qui n'avaient pas les moyens de se payer des voyages pareils, et surtout de payer le docteur, hein, parce que je vous dis qu'ils se faisaient gras, hein, les docteurs, là-dessus. Bon. Alors, on a dit, il faut en parler. Nous aussi, on va en parler, on va écouter les femmes, on va écouter ce qu'elles disent. Et alors, c'est comme ça qu'on a commencé à faire des statistiques, c'est-à-dire que il venait des gens qui faisaient telle demande, on avait des colonnes, alors demande de contraception, demande d'avortement, demande de rien du tout, on faisait des statistiques. Et ça nous a rendu service parce que c'est comme ça qu'on a pu avancer les chiffres en disant 800 000 naissances prévues. Ah, parce qu'il y avait aussi un truc terrible.
quand on était enceinte, il fallait aller à la pharmacie qui vous avait fait le test, là, pour voir si vous étiez enceinte, puisqu'il n'y avait pas encore les machins qu'on pouvait acheter quand on voulait. Elle vous inscrivait sur un livre, sur un carnet, avec nom, adresse, l'état de la grossesse, hein, un mois, deux mois, trois mois, et les flics venaient contrôler ça à la pharmacie.
Ah ouais.
Puis quand vous aviez pas le bébé, hein, il était où le bébé? Voilà. Eh ben oui, c'était terrible, on était surveillés comme ça. C'était pas drôle, hein, c'était pas drôle. Et c'est pourquoi les gens étaient tout le temps dans la culpabilité, dans l'interdit. Quand on est surveillé comme ça, ça me faisait l'impression que j'étais... À l'époque, les prostituées aussi, elles avaient des cartes, elles étaient inscrites, je sais pas quoi. Ça me faisait l'impression que toutes les femmes étaient mises dans cette espèce de moule dans lequel une femme qui veut exercer librement son être, eh ben, il était tout le temps menacé, était tout le temps surveillé. Voilà, moi ça me faisait cette impression-là. Parce que vous savez bien qu'à cette époque-là, alors on utilisait tout, il y en avait une, elle s'était mis la machine, le tuyau de la machine à laver sur essorage, pensant que ça allait, je ne sais pas, peut-être dilater le col pour sortir... ce bébé pas désiré. Il y avait des gens qui mettaient une aiguille à tricoter, ils ne savaient même pas à quel endroit il fallait le mettre, mais bon, on mettait du persil, enfin des choses très sales qui provoquaient des infections et qui faisaient que les femmes mouraient souvent de tétanos ou de septicémie. C'est vrai, je vous raconte vraiment des choses qui ont été vécues par les bonnes femmes qui ont mon âge maintenant. Alors, il fallait que ça cesse, donc... ça a cessé grâce à nos difficultés. Alors, il y a eu donc ces médecins qui prenaient beaucoup d'argent pour avorter des femmes. Et on avait ouï dire qu'il y avait même des médecins qui pratiquaient l'avortement en France, mais c'était très très cher. Et bien, il ne fallait pas que ça se sache, parce que sinon, eux, ils n'avaient plus le droit d'exercer. Enfin, ils faisaient de la prison et tout. Donc... nous, au planning, on s'est un peu révoltés, on a dit quoi, et on avait appris que les médecins prenaient très très cher. Alors on les a foutus à la porte, on a fait un congrès qui a été sanglant, on a fichu les docteurs à la porte, et c'est à ce congrès-là d'ailleurs qu'on a posé le problème de qu'est-ce que c'est qu'une relation sexuelle. Ça n'est pas seulement une relation pour procréer, c'est aussi une relation de plaisir. Oh là là, alors là, la révolution, ça provoquait des réactions. Ah oui, la réaction de plaisir, mais quelle horreur. Mais les catholiques, ouh, quelle horreur, le plaisir. Et alors, il fallait surtout pas parler de ça. Alors nous, on a commencé, on a travaillé. Il n'y avait plus de rond dans la caisse parce que les médecins, ils avaient tout chapardé. Il n'y avait plus rien. Et nous, avec notre fric, avec notre énergie, on a remonté le planning. Et c'était Simone Yves, qui est morte dernièrement, à qui je rends hommage parce que cette femme-là, elle a été d'un grand courage. Et donc, voilà, on a requinqué le planning, on a fait une grosse publicité comme ça, de bouche à oreille, puisqu'on était interdit, hein. On était toujours interdit. Et on est reparti. Et à partir du moment où il y a eu ce petit père, comment il s'appelait, ce docteur Neuwirth, qui a parlé de la pilule et tout ça. C'était un bonhomme, hein, tout ce que les bonnes femmes faisaient dans les permanences et tout. On n'avait pas le droit de prescrire les pilules et tout ça. On savait qu'il y avait des médecins favorables à Dijon. Il y a eu quelques médecins favorables qui ont milité avec nous. Et on les envoyait là pour se faire prescrire des ordonnances pour la pilule. Après, on a trouvé des diaphragmes, tout ça s'était libéré un peu. Et on n'était plus hors la loi, on avait pignon sur rue. Et donc, on a commencé à ce moment-là à parler de l'avortement. On a dit, bon, d'accord, la contraception, c'est très bien pour tous ceux qui peuvent la pratiquer, mais il y a des contraceptions qui ratent. On a commencé par faire comme ça, hein. On n'a pas dit l'avortement. On a commencé par dire, mais et quand la contraception n'est pas réussie? Parce qu'on avait le diaphragme, la pilule, alors au début c'était horrible, il y avait des femmes qui grossissaient, enfin c'est des histoires d'hormones, alors c'était dosé pas trop fort, pas assez fort, j'en sais rien, enfin c'était des dosages qui intervenaient sur le système hypophysaire, enfin sur tout le système génital, et ça donnait des réactions différentes selon les individus, hein. Il y avait des femmes qui supportaient, d'autres qui supportaient pas, et puis il y avait toujours derrière la culpabilité,
Parce que je me souviens d'une fois, moi j'ai repris mes études à 33 ans parce que j'en avais marre de regarder le cul des casseroles. Et j'ai dit, bon, les trois gosses, ça suffit, je vais faire mes études. Alors, je suis partie là-bas. Et alors, comme j'étais assistante conseillère, je ne sais plus comment ça s'appelait, ou de planning familial, on m'avait dit, ah, tu pourrais bien prendre de la permanence de la à l'université. Et c'est ce que j'avais fait, puis ça s'est su. Alors, il y avait des nénettes comme ça qui venaient. Puis, deux, trois fois, j'ai eu des jeunes femmes, des jeunes filles, qui me disaient... alors elles savaient pas trop comment aborder le problème. Bon, en fait, elles avaient un amoureux avec qui elles avaient des rapports sexuels. Et alors, il y en avait une qui m'avait complètement bouleversée. Elle me dit, vous en comprenez, madame, mon papa est médecin et il est contre la contraception. Et moi, je prends la pilule. Alors, je dis, bah, c'est très bien, vous faites bien, vous faites vos études, vous n'avez pas envie d'élever un enfant en même temps. Surtout si votre papa est contre, c'est une manière de bien vous protéger. Alors, il dit oui. Et il parle avec mépris des femmes qui prennent la pilule, bon, pute, machin, comme ça. Donc, la gamine, elle disait qu'elle avait mal à l'estomac. Alors, je lui dis, qu'est-ce que vous faites pour lutter contre votre mal à l'estomac? Thomas, elle dit, ben, je prends des médicaments, je lui dis, et alors on a parlé pendant au moins une heure et demie, et après j'ai dit, votre estomac, comment ça va? Oh, elle dit, ça va bien, j'ai plus de mal. Alors en fait, elle était tellement angoissée et nouée qu'elle avait des problèmes psychosomatiques. Et il y avait énormément de gens qui étaient dans cette situation-là. Et cette culpabilité qui portait d'avoir, transgressé l'interdit de la virginité, de que je sais pas quoi, tout ce bazar qu'on trimballait depuis des siècles, et surtout de l'indépendance. De l'indépendance, c'est-à-dire la femme pouvait choisir d'avoir un enfant ou de ne pas avoir un enfant. Alors, à partir du moment où il y a eu M. Neuwirth qui a parlé de la pilule, alors on a bien écouté M. Neuwirth, oh, docteur, hein. Alors lui, il savait ce qu'il disait, le docteur, hein. Donc lui, il avait raison contre nous avec nos diaphragmes et nos stériles. Donc ça ne résolvait pas tout puisqu'il y avait des gens, des échecs, qu'on appelait des échecs à la contraception. Et il y avait aussi des gens qui s'en foutaient, qui ne voulaient pas, qui pratiquaient plutôt des avortements que la contraception. Hein, parce qu'il y a eu ça, il y avait des gens qui prenaient des avortements. Alors comment on a fait? Donc, on a posé le problème de l'avortement, on a dit voilà, tant de naissance, tant de déclaration de future naissance, tant de naissances, il y avait 8 000 naissances et il y avait 4 000 qui ne naissaient pas. Où étaient partis les autres? Bon, il y avait des avortements certainement, il y avait peut-être des fausses couches, mais ils appelaient ça des fausses couches, mais c'était des fausses couches, des avortements. Et donc, alors là, on a dit, ben, il faut qu'on se préoccupe de ça, ça fait partie aussi de la sexualité humaine, puisque à un moment donné, les femmes, d'ailleurs depuis longtemps ça se pratiquait, hein, quand les nomades partaient dans le désert, je ne sais pas si vous êtes au courant un petit peu, pour pas que les chamelles soient fécondées pendant les grandes marches qu'ils faisaient depuis le Sahara, Maroc, jusqu'en Chine, je ne sais où, chercher la soie et les produits qu'ils ramenaient, ils mettaient des galets ronds, très ronds, dans le vagin des chamelles pour pas que le sperme atteigne les fécondes. Donc les gens, ils ont toujours essayé de trouver des trucs. Je sais pas, les Égyptiens aussi, ils avaient aussi des techniques avec de l'éponge et puis des produits, des plantes. Il y a des plantes contraceptives, hein. Et il y a des sorcières, les gens qui connaissaient les herbes, elles essayaient de se servir de ça. Donc, cette espèce d'histoire d'avortement, là, on a vu, les gens, ils sont venus vraiment dans les permanences, hein, et ils nous demandaient carrément. Alors là, nous, on a commencé à organiser des voyages. Alors, vers l'Angleterre, on avait des cliniques, on avait en Hollande, et puis comme les gens n'avaient pas beaucoup de sous, on avait négocié les prix, en plus. Et puis souvent, on partait, quand ça allait en Hollande, avec un bus, on emmenait des femmes en bus, enfin, on se débrouillait, quoi. On a fait une espèce de trafic tout à fait illégal. Mais bon, personne ne nous a jamais rien dit. Mais la trace qu'on en trouve maintenant, il n'y a plus que Madame Veil qui parle et Madame Halimi qui parle aussi. Parce que Madame Halimi, alors elle a eu l'audace de défendre une jeune fille qui allait être condamnée à la prison parce qu'elle s'était avortée. Elle avait 18 ans. Elle s'est fait avorter. Je ne sais pas par qui, c'était même pas un médecin. Et Halimi a décidé, alors ils avaient formé une association qui s'appelait Choisir.
Et après, il y a eu le MLAC. Et le MLAC, c'est lui, il a pratiqué les avortements. On a appris à faire des avortements avec la méthode Karman qui venait de Chine. C'était Tétard, enfin, le professeur Tétard, il y avait... Oh, j'ai oublié le nom. Oui, et, ben, vous connaissez Tétard, c'est celui qui a inventé la...
La fécondation in vitro avec Freestyle.
Et il y en avait un autre, et j'ai oublié son nom. Aussi. Et il s'occupait plus particulièrement de la stérilité masculine. Alors ça aussi, c'est un terrible. Parce qu'à un moment donné, on a parlé de la vasectomie. Vous savez ce que c'est la vasectomie? Ah bon, alors là, c'était pareil, c'était un scandale d'avoir osé poser le problème de la vasectomie. Et alors lui, il s'occupait de la... Donc, mais tous ces gars-là, ils étaient jeunes, hein, ils étaient en train de faire leurs études et tout, ils ont pris des risques, ils nous ont... Et nous, on a aidé, on faisait un peu les gars de sauce. Hein. C'était difficile, moi-même, j'étais pas exemple de réticence. Hein. Il a fallu travailler toute cette éducation rigide qu'on avait ingurgité depuis l'enfance. Hein. En plus, moi, avec ma double appartenance à la culture musulmane et à la culture française, voilà, on était bien tiraillés. Donc, mais j'étais tiraillée, mais je savais que j'avais raison de poser ces problèmes-là, qu'il faudrait un jour les poser. Parce que c'était impensable qu'on continue, puisqu'on disait qu'on était dans un... Et puis on voyait que les choses... L'industrie produisait des tas de choses, des tas d'objets, que un jour ou l'autre, il faudrait poser le problème de ce rapport d'égalité entre les hommes et les femmes. Parce que c'était déjà un début de poser la femme en tant qu'égale de l'homme. Elle pouvait disposer de son corps comme elle voulait, sans avoir la crainte d'avoir un enfant ou après avoir fait une rencontre éphémère. C'était quand même, c'était ça notre idée, de libérer un peu.
Et avoir droit au plaisir.
Les mœurs, et ben oui, puis avoir droit au plaisir, surtout se sentir bien heureuse. Alors le manifeste, ça a été que Madame Halimi ayant, politiquement, l'État ne pouvait pas ignorer qu'il y avait eu, que Madame Halimi avait gagné le procès de cette jeune femme, jeune fille, qui s'était fait avorter et qui avait gagné son procès. Alors, avec Simone de Beauvoir, toutes ces bonnes femmes de l'époque, qui étaient des très bonnes femmes, elles ont dit, on va mettre, moi aussi j'ai avorté. Et c'est comme ça, c'était ça le slogan.
Mais c'était avant le procès.
C'était avant le procès, non.
Ah, il me semble.
C'était avant ça. C'est après que nous, on a réagi en disant, moi aussi j'ai avorté. Ah, oui, parce que...
Il me semblait que c'était avant, enfin je suis pas sûre, mais il me semblait que c'était avant. Peut-être. Et justement, ça a pesé dans la balance au procès. Non. Vous pouvez le vérifier parce que c'est le procès de Bobigny de Marie-Claire. Hein, ça s'appelle Marie-Claire. Donc vous aurez les dates et vous regardez quand est sorti le manifeste. Et oui. Vous saurez si c'était avant le procès ou après. Mais... Moi, dans mon souvenir, mais c'est des vieux souvenirs aussi pour moi, il me semblait que justement ça a créé un rapport de force, ce manifeste. Et que les choses ont basculé à partir de là, et que du coup le procès a été gagnant.
Oui,
et qu'après on a eu la loi Veil, machin et tout. Mais bon, alors vas-y, raconte.
Je sais pas, parce que tu sais, il y avait déjà un moment que les gens du planning familial étaient écoutés en haut lieu. Et les gens, tu vois, Giscard d'Estaing, pourquoi il a envoyé la merveille au casse-pipe, là, hein, à l'Assemblée nationale, parce qu'elle a été traitée. Comme moins que rien, hein, il faut voir.
Une salope.
Oui,
c'était le grand terme. Hein, quand on voulait faire taire une femme, c'était une salope.
Donc, oui, j'adore ça. Moi. Et alors, oui, elle était insultée, hein, cette femme-là, qui avait quand même une certaine tenue, qui n'était pas n'importe qui. Elle avait pris ça courageusement. Mais Giscard d'Estaing l'a envoyé au casse-pipe, parce que Giscard, il voyait que la politique tournait, qu'il allait peut-être pas être élu, il avait besoin de la voix des femmes. Et c'est en fait ça qui a... C'est en fait ça qui a fait que tout ce qu'on pouvait avancer pour gagner quelque chose, on l'a fait. Et on l'a alors. Donc, on a signé cette pétition en disant, moi aussi j'ai avorté. Et puis on était 343 à avoir signé. Il y a plein de gens qui n'ont pas voulu signer. Et moi, alors j'ai eu une aventure très triste avec le bien public, ce journal de merde. Je crache depuis tout. Parce que... Oh,
ils m'ont insulté dans le journal. Ils ont dit que Dijon ne pouvait pas s'enorgueillir d'avoir une salope parmi ses citoyens.
C'était vraiment ça.
Salope, plus tard. Plus tard aussi. Et mes copains qui militaient à gauche, à extrême gauche, étaient les gauchos.
Mais ça, non, comment on...
Oh non, on t'a jamais insulté.
Non, attends, laisse m'enchaîner. Et mes copains gauchos disent, Gamina, il faut absolument corriger. J'ai dit, non, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. On n'a rien dit et ils sont restés avec leur petit cul d'article de merde. On n'a pas réagi, on avait gagné. C'est vrai, on avait gagné. Mais on n'a pas gagné ce qu'on voulait. Parce que nous, on voulait l'avortement libre et gratuit. C'était ça le slogan. Et alors, avec le MLAC, on faisait des avortements. On les faisait dans des salles, alors il faut voir. Hein. On se cachait, on se sauvait, on cachait le matériel. C'était vraiment...
Il y avait des descentes de flics.
Oui, ils nous guettaient. Hein. Bon, on se faisait après, on s'y flottait ensemble. Mais bon, on avait peur aussi de ne pas réussir. Hein. C'était... Et puis les trois médecins là, qui étaient à la tête de ce truc-là, à Paris, ils étaient chercheurs, ils n'étaient pas encore au CNRS, c'était des jeunes médecins, quoi. Et ben, ils risquaient gros, ils risquaient leur carrière, quoi.
Alors, au MLAC, c'était après 68, donc il y a eu... Le MLAC a pu exister aussi parce qu'il y avait donc le MLAC, planning familial, qui était sur le terrain depuis des années, et donc qui avait un peu préparé le terrain, et qui savait comment agir sur ce terrain-là. Et ils ont reçu le soutien alors du mouvement du MLF,
mouvement de libération des femmes.
Donc, et d'un certain nombre de groupes gauchistes. Donc des gens du Sud, des gens de la Ligue, des gens. Ouais. Je ne sais plus trop quoi.
Il y a les Verts, les
premiers écolos, etc. Donc il y a eu. Ça a été vraiment une lutte convergente. Et des militants de base de la CGT, de la CFDT.
Oh, la CGT.
Les militants de base de la CGT. J'ai pas dit l'appareil stalinien.
Mais l'appareil stalinien, quand on est allé les voir, elle a dit comment en 1920, les communistes avaient voté contre cette loi. Pourquoi vous voulez pas qu'on l'abroge maintenant? Mais vous êtes des cornichons. Alors les femmes du PC, elles ont été impeccables. Elles ont dit, oui, elles se sont engueulées, ça fait des micmacs dans le parti à ce moment-là. Ils ont fini par se dire, oh, les bonnes femmes, on a qu'à les laisser faire un truc comme ça. Hein. Mais on ne les a pas convaincus. Mais les militants de base, oui, ils ont été d'accord. Puis parce qu'on en avait qui étaient au... Le planning, c'était la réunion d'un tas de gens hétéroclites. Moi, je suis arrivée là, quand je suis rentrée dans ce mouvement, oh là là, c'était comme chez les flics. Hein. Alors, vous êtes qui? Que fait votre mari? J'ai dit, oh ben attendez, moi je ne suis pas venue pour parler de mon mari. Je veux militer avec vous. Déjà là. J'étais habillée, faut voir comme, pas dans le style de Madame Machin. Alors, ils m'ont dit, oh, mais il faut que nous nous concertions. Alors, moi, j'ai dit, concertez-vous, j'ai attendu une demi-heure. Hein. Alors, qui est-ce qui m'a défendu? Les mecs, vous voyez, un peu. Hein, là, il y avait les pédâtres du planning. Il y avait c'était des profs de fac qui militaient aussi au planning parce qu'évidemment ils étaient un peu d'avant-garde. Hein. Puis avec toutes les nénettes qu'ils avaient sous la main, ils avaient intérêt quand même à ce qu'elles soient un peu libérées. Hein. Enfin, je dis ça, c'est méchant. Tout à fait méchant parce qu'ils ont vraiment milité. Mais il faut bien rigoler des mecs un peu. Hein.
Mais je crois que ça a été possible en fait ce qui s'est passé pour le MLAC et pour arriver à la fois sur ce manifeste. Qui a emmené quand même, il était emmené par des intellos, des actrices, ouais. Comme ça, et puis aussi des militantes de base du planning, d'ailleurs.
Oui, au
c'est parce que c'était vraiment parce que c'était l'après 68, pratiquement. On était derrière la lutte des LIP, c'était une période.
Oui, c'était une époque.
C'était une espèce de bouger. Période charnière où il y avait encore des choses possibles. Mais il y avait quand même. Un rapport de force et des mouvements.
Mais c'est que les gens, ils avaient envie d'être heureux. C'est vrai, on a été. Moi, j'ai vécu une vie heureuse à ce moment-là. Hein. Je faisais n'importe quoi. Non, mais c'était marrant parce que la vie était joyeuse, oui. Parce que ben, il n'y avait pas encore le sida. Quand le sida est arrivé, oui. Hein, tu parles d'un été noir, hein, ça nous a fait un coup quand même.
Donc, pour en revenir à la question que tu posais, ouais. Parce que finalement, en fait, ça, quand on mène une lutte.
Oui.
Quand on mène une lutte, il faut faire très très gaffe au moment où on pense qu'on l'a gagnée, parce que c'est peut-être là justement on va se faire entuber. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu les centres et tout,
on n'avait plus rien à dire, c'était plus le planning, voilà. Le mouvement français.
Et puis les choses sont installées, les femmes elles vont là, et puis pas ailleurs, on s'aperçoit petit à petit, c'est en train de reculer, mais malheureusement, moi je me suis rendu compte que les jeunes de votre âge, quand je leur ai dit, à un moment donné, je leur ai dit, mais vous savez, il n'y a pas si longtemps, c'était interdit, la contraception, l'avortement, tout ça, et on va vous le piquer, là, c'est parti, on va vous le piquer. Elles m'ont regardé avec des yeux ronds, parce qu'elles n'avaient aucune idée. Elles m'ont regardé avec des yeux ronds en se disant, la mémé, là, qu'est-ce qu'elle nous raconte? 15 jours après, en Espagne, ils voulaient le piquer. Alors là, je les ai revus, mais j'ai dit, voyez, je racontais pas de conneries, mes filles.
Mais Madame Boutin, elle attend que ça, tout souvent. Moi, je regarde dans le monde, dans des petits entrefilés. Madame Boutin a parlé de la loi contre l'avortement. Elle veut. Non, mais celle-là, elle est. Comment ça s'appelle, son parti, chrétienne, je sais pas quoi, là.
En fait, le MNAC avait plus de raison d'être, voilà. Puisqu'il y a eu des centres qui ont été ouverts. Et alors, les femmes s'adressaient aux centres.
On nous a retiré notre travail. Ça s'est devenu planning familial. Le mot mouvement avait disparu. Il fallait surtout pas que ce soit un mouvement. Parce que nous, on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. On voulait que ce soit libre et gratuit l'avortement. On voulait que ça reste un mouvement et qu'il y ait des lieux. Ça s'est tout marchandisé. Le capital est arrivé et vas-y. Il y a eu des conseillers conjugaux, machin chouette, des psychos, machin chouette. Et tout ça s'est dilapidé dans le commerce. Et notre beau mouvement, il s'est dilapidé.
D'abord, ils ont reçu des subventions qu'ils n'avaient pas avant.
Hop.
Bah si, le planning et les subventions.
Ah bah là moi, j'y étais pas. À l'époque,
après, une fois que la loi était passée, ça a été institutionnalisé, il y a eu des centres, il y avait des subventions.
Mais il y a eu aussi qu'ils ont voulu surveiller les avortements. Ils avaient édicté une loi où c'était 12 semaines et pas plus.
Oui,
alors parce que, oui, c'est vrai que quand on sait les choses en détail, à partir de 12 semaines, l'embryon prend forme, un fœtus, et c'est plus délicat pour la femme, au niveau de l'intervention, c'est plus délicat à faire. Donc c'est plus difficile de faire par la méthode Karman. Quand on enlève un embryon, c'est un bout de je sais pas quoi, de chewing-gum, et ça sort. Mais quand il y a déjà une forme un peu plus grosse, il faut faire une intervention plus conséquente. Et puis il y a eu donc des centres qui accueillaient pour l'avortement, maintenant il y en a pas. Et les femmes plein de femmes m'ont dit, mais quand on va là-bas, on nous traite très mal. On nous traite toujours très mal. Et moi, je trouve ça inadmissible. J'ai dit, mais les femmes, pourquoi elles ne se révoltent pas? C'est une loi. On l'applique et puis c'est tout. Il n'y a pas de commentaire à faire. On vous traite comme des individus et on fait une demande médicale et il faut le faire. C'est tout. Si le médecin ne veut pas le faire, c'est là aussi qu'on n'a pas été contente, c'est que les médecins avaient le droit de choisir. Mmh. Alors il y a eu quelques médecins qui l'ont fait volontairement et parce qu'ils y croyaient, et on les a traités d'avorteurs. Mmh. Voilà. Alors tout ça, ça fait que ça s'est réduit comme une peau de chagrin. Et quand ça se fait à l'hôpital, on ne gagne pas beaucoup d'argent, alors que dans un cabinet médical, on peut prendre le prix qu'on veut.
C'est
devenu un commerce, et à partir du moment où tout est devenu un commerce, il n'y avait plus de réflexion. C'est comme ça que maintenant les gamins ils apprennent la sexualité en regardant le porno. Hein. Alors après, il faut les écouter parler, les gamins. Hein. Moi, de temps en temps, je refais des leçons.
Mais quand tu parles de la méthode Karman, c'était une chose qui avait été réappropriée, où vous pouviez passer le médecin, quoi.
La méthode Karman, elle était pratiquée en Chine, parce qu'eux, ils ne voulaient pas que les femmes aient plus d'un enfant. Ils faisaient ça très très bien, et il y a plusieurs médecins français qui avaient été en Chine et qui avaient été absolument convaincus que c'était tout à fait pratique, propre, il y avait pas, ça ne coûtait pas cher, etc. Et nous, on l'a pratiqué, alors dans des conditions, on avait des médecins qui nous aidaient, et dans de grandes asepsie, il ne fallait pas que la femme soit malade. Et c'est vrai, les filles, elles étaient...
C'était essentiellement des étudiants en médecine, en fait.
Oui, mais des fois, on a fait... Ah bon, on n'avait plus...
Non, il n'y avait pas obligatoirement besoin d'un médecin. Il suffisait de bien connaître la méthode.
Il fallait et d'appliquer connaître le corps.
Bien connaître le corps humain, féminin. Et bien prendre toutes les mesures d'asepsie, comme disait Mina, et puis ça pouvait se faire. Hein.
Et alors là, il fallait quand même, c'était difficile, les filles. C'est pas facile d'avorter, parce que là, on est là, l'avortement, oui, des salopes, machin. Mais comme tu l'avais dit un jour, j'avais bien aimé ton intervention, Bia s'était levée, elle avait dit, c'est pas une partie de plaisir quand on va se faire avorter, c'est une nécessité. Alors, si quelqu'un a envie d'ajouter un mot, c'est vrai, les gens, ils avaient toujours l'air de dire que les filles, elles se faisaient avorter au lieu de pratiquer la contraception. Et bien, il y a des gens qui n'arrivaient pas à prendre une contraception et puis qui se retrouvaient enceintes. Ben, c'était toute une... Il fallait apprendre à gérer cette manière de vivre.